Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette, de retour alors.
De retour.
Tu étais donc à Paris pour le Festival de Cannes, si j'ose dire.
Oui, si on peut dire. Plutôt pour garder les petits-enfants. Je n'étais pas au Festival
de Cannes. Pendant que leurs parents sont au Festival de Cannes.
Exactement, voilà. Donc, du coup, j'ai pu passer dans les différents lieux du Yiddish et suivre des cours. C'est toujours très sympathique. Alors, donc après une interruption musicale, hein, puisque la semaine dernière, tu as fait une émission sur
ouais,
Yom.
J'ai eu le plaisir de présenter cet extraordinaire Yom. J'ai aimé, j'espère que vous aussi.
Alors, je reprends la série sur le Hourman, sur la Shoah. Et pour présenter donc un livre vraiment tout à fait remarquable et vraiment dont je recommande très chaleureusement l'achat, parce que c'est un livre qu'on peut se procurer. Hein. Donc, j'avais consacré quatre émissions à Fela Gelman, donc traduite par Erez Lévy, parce que c'est un livre qui n'est pas facile à trouver, mais là, c'est un livre édité par les presses universitaires de Strasbourg, il faut le souligner. Et donc, il s'agit de la vie, enfin la biographie, oui, de Rachel Auerbach, en yiddish Rachel Auerbach, qui a été, c'est un ensemble de textes rassemblés par Carolina Chimagnac. Alors, je crois qu'il faudrait faire une émission rien que sur Carolina, parce que Carolina est vraiment quelqu'un d'absolument remarquable. Donc, c'est une yiddishisante de très haut niveau. J'ai eu la chance de suivre ses cours. J'ai eu la chance aussi de suivre des cours sur les textes de Rachel Auerbach, sur laquelle elle travaille maintenant depuis très longtemps. Donc, Carolina s'est spécialisée dans la littérature féminine en yiddish. Elle a édité plusieurs livres sur des poétesses yiddish. Le problème est qu'elle écrit en général en polonais, donc ses livres sont en polonais. Elle a traduit par exemple des poétesses yiddish, mais elle les a traduits en polonais avec biographie et tout ça. Donc voilà, c'est pas très accessible pour le public francophone. Alors là, Rachel Auerbach, donc c'est un ensemble de textes et aussi sa biographie. Alors là, nous avons la chance que ça a été traduit par Alexandre Daillé. C'est un livre qu'elle a déjà édité en polonais il y a quelques années, qui est vraiment le résultat d'une recherche extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a cherché dans toutes les archives, que ce soit en Pologne, que ce soit en Israël, également des revues comme les Literarische Blätter. Alors, Rachel Auerbach écrivait en yiddish et en polonais. Elle a un peu écrit en hébreu, mais je crois surtout que c'est des textes qui ont été traduits en hébreu. Mais Carolina, elle a cherché évidemment les textes en yiddish, les textes en polonais, souvent des manuscrits qu'elle a déchiffrés. Et elle a également cherché des textes qui parlent de Rachel Auerbach en anglais, en allemand. Elle a cherché dans les archives du YIVO, dans les archives de l'Institut juif de Varsovie. Voilà, donc vraiment un travail absolument incroyable. Et grâce à sa connaissance, elle, de toutes ces langues, donc elle maîtrise aussi le français d'ailleurs, puisqu'elle enseigne en ce moment à la Sorbonne. Et donc elle a fait des recherches dans des tas d'endroits et dans des langues toutes diverses et variées. Et voilà, et donc c'est le résultat de ce livre, est le résultat de ces recherches. Alors, donc, Rachel Auerbach, je vais quand même reprendre sa biographie parce qu'elle est intéressante, c'est-à-dire qu'elle est surtout connue à cause de ses écrits sur le ghetto de Varsovie, puisqu'elle a fait partie de ce groupe qui s'appelle Oneg Shabbos et qu'on appelle maintenant les archives Ringenblum. Mais elle a eu une vie avant le ghetto. Et d'ailleurs, elle est née en 1899. Donc en fait, quand c'est le déclenchement du ghetto, elle a 40 ans. Donc, on disait il y a quelques jours que Fela Gelman a survécu parce qu'elle était une jeune fille, elle était une jeune fille de 20 ans, donc encore qui pouvait s'organiser, mais qui était encore très solide physiquement. Et on peut dire que Rachel Auerbach, au moment du ghetto, elle avait 40 ans, donc elle était au sommet de ses capacités intellectuelles, de journaliste. Et donc, elle a pu écrire des textes tout à fait remarquables. Alors, elle est née en 1899, comme je l'ai dit, dans un village en Galicie. Elle décrit comment des soldats arrivent affamés pendant la guerre, la suite de la guerre de 14, et que sa mère leur donne du pain. Donc, sa mère meurt peu après. Donc, elle va à Lvov avec son père. Là, elle passe son baccalauréat en 1921. Elle va faire des études de psychologie, d'histoire socio-économique et elle va commencer une carrière de journaliste en écrivant dans un journal polonais qui s'appelle Chwila, qui veut dire moment, qui est un mouvement sioniste. Et pendant toute sa vie, on peut dire qu'elle s'est intéressée au sionisme et à l'émancipation des femmes. Puis elle commence à écrire en yiddish, puisqu'elle estime que le yiddish est important pour les juifs, enfin pour la survie du peuple juif, qu'il ne faut pas parler que l'hébreu. Elle n'a pas écrit en hébreu, hein, et elle a parlé l'hébreu qu'en arrivant en Israël dans les années 50. Donc elle écrit dans un livre qui s'appelle dans un journal qui s'appelle Der Morgen. Ensuite, elle va travailler pour le YIVO, qui est l'institut scientifique sur la langue, sur le yiddish. Puis elle va être la rédactrice de Tzushtayer, qui veut dire la contribution, qui est une revue d'avant-garde, on peut dire. Où elle est la rédactrice, je crois, je ne sais pas si elle a écrit des textes. Nous avons lu quelques poèmes parus dans Tzushtayer, alors peut-être de Kadia Molodovsky, maintenant je ne veux pas m'avancer. En tout cas, elle se plaint à un moment de la situation qui lui est faite. Donc là, c'est un texte de 1929. Elle se plaint auprès de Meller Ravitch, qui est un célèbre écrivain et aussi critique. Premièrement, toute l'entreprise est ridiculisée parce qu'elle est gérée par une femme. Alors, femme, c'est le mot yiddish, yidene. Yidene, il faudrait presque le traduire, une bonne femme. Deuxièmement, on essaie d'amener mes amis les plus proches à se méfier de moi. Ici, ils se révèlent être des outils pour la réalisation de mes petits, entre guillemets, objectifs. Contre une femme, on utilise principalement l'arme du ridicule. Voilà, donc effectivement, ça montre ses positions féministes, ça montre aussi qu'elle était extrêmement sensible. Cette revue n'a pas beaucoup de succès. En avril 32, elle épouse le poète Ber Schnapper, qui était un des collaborateurs de Tzushtayer. Mais elle fait aussi connaissance, je dis mais parce qu'elle va le quitter, pour Itzik Manger. Donc ça, c'est une période très connue de la vie de Manger et de la sienne. Donc elle vit avec Manger, elle déménage à Varsovie et elle a une relation avec Manger qui est quand même assez houleuse, puisque comme on sait, il boit, il se comporte pas bien. Sa biographe, qui s'appelle Gal Ed Efrat, a écrit « Cet amour lugubre exigeait énergie et psychologie. Il n'était pas rare que Rachel fût elle-même victime de la rage destructrice de son compagnon. » Alors, c'est très intéressant parce que nous avons travaillé sur Itzig Manger et fait un spectacle sur Itzig Manger. Oui. Et c'est vraiment la période, une période de grande créativité et de créativité très joyeuse. C'est là qu'il écrit la Megillah, c'est la Megillah, pardon.
Il a beaucoup de succès, que tout va bien. Voilà. Mais.
Énormément de poèmes et aussi les Chumash Lida. Voilà, donc toute cette production joyeuse hein, des années 30 de Manger, eh ben, avec elle, ça n'allait pas si bien que ça. Mmh. Voilà, donc Manger part en 38, hein, il est citoyen roumain, il doit quitter. Ensuite, elle vit de traduction et elle fait des interviews aussi, donc elle a du mal à vivre et la guerre la surprend en plein travail, voilà. Donc, elle pense d'abord partir à Lvov où il y a sa famille. Et puis, elle rencontre, si je puis dire, Ringenblum, Emmanuel Ringenblum, qu'elle connaît depuis 1935 d'un colloque du Yivo. Et lui dit que les intellectuels doivent aider les Juifs qui sont dans une situation de plus en plus difficile. Donc, elle va créer une cantine populaire qui se trouve 40 rue Leschno, hein, une célèbre rue de Varsovie, en octobre 39 déjà, et qui va fonctionner assez longtemps, qui va fonctionner, je crois, jusqu'en 42, et qui, en août 41, au moment où vraiment la famine règne dans le ghetto, elle distribue 2200 assiettes de soupe par jour. Parallèlement, Ringenblum crée ce groupe de Oinek Shabbos, donc ce sont des archives qui sont rassemblées pour témoigner du sort des Juifs et des massacres et de comment est la vie dans le ghetto. Et elle n'y participe pas au début, mais finalement, on va la convaincre de participer. Donc, elle écrit à l'été 41 « J'apprends l'existence d'un groupe de contributeurs et de personnes qui documentent l'actualité. Ce groupe existe depuis longtemps. Ringenblum me demande de coopérer avec lui. » Donc, elle va tenir un journal du ghetto de août 41, exactement du 4 août 41 jusqu'au 26 juillet 42. En juillet 42 ont lieu les grandes rafles et les grandes déportations, ce qu'on appelle les actions, hein, ce que les Allemands appelaient Aktion. Et donc là, elle s'arrête et ensuite elle fera un autre travail, c'est-à-dire qu'elle va documenter en fait ce qui se passe à Treblinka grâce à un évadé de Treblinka. Donc ça, elle travaille comme ça de hiver 42 jusqu'à début 43. Et en mars 43, elle va sortir du ghetto et aller du côté arien. Voilà, on va peut-être écouter une musique justement sur le ghetto.
Oui, alors ça sort du fameux, lui-même CD dont j'ai déjà fait entendre des plages, Voices of the Ghetto, Voix du ghetto, avec ce titre en anglais, personne ne sait pourquoi. Donc c'est une chanson un petit peu d'espoir. Schlag die Show, l'heure approche, nous sommes là, nous regardons dans le lointain, le ciel s'éclaircit. Voici venir des temps nouveaux, même si maintenant il fait nuit noire. Nous attendons patiemment, le jour se lève et l'heure approche où les coupables périront. Alors, voilà commentaire de la chanson par les éditeurs du disque. La résistance juive était aussi culturelle. Cette chanson fait partie d'un spectacle présenté dans le ghetto de Vilno, donc c'est pas à Varsovie, mais bon, en septembre 1943, quelques jours plus tard, le ghetto était liquidé. Pour parler de la résistance culturelle dont témoignent effectivement Rochel Auerbach et Emmanuel Ringelblum.
Absolument, oui. D'ailleurs, il devait organiser un concours de littérature à laquelle elle a peut-être participé. Voilà, donc l'activité culturelle était extrêmement vivante dans tous les ghettos, d'ailleurs.
Voilà, « Es schlug die Show », chanté par Hélène Dupont.
Mir sei einen da, wir gucken in die Weite. Es wird der Himmel wieder blau, es kommen neue Zeiten. Und rutscht der Leib ins Finsterstock, warten wir geduldig. Es kommt der Tag, es schlagt die Schock, dann Vater wird sie schuldig. In die Weiten, es wird der Himmel wieder blau, es kommen neue Zeiten. Und Gott, der Weib ist Finsterstock, warten wir geduldig. Es kommt der Tag, es schlagt die Schau, dann Vater wird sie schuldig.
Voilà donc des chants du ghetto. Et donc, comme je le disais, Rachel Auerbach quitte le ghetto en mars 1943. Et donc, elle va se réfugier du côté arien, où elle va travailler dans une. Oui, elle va faire des traductions dans une entreprise de. Voilà. Elle travaille pour le Comité national juif dans le bureau de traduction dirigé par Janina Buchholz, rue Miodova. Alors, apparemment, c'est à l'extérieur du ghetto, ce qui est un peu étonnant, mais enfin bon. Et donc là, elle va travailler un certain temps et elle aura une grande reconnaissance envers cette Janina qui l'a beaucoup aidée. Et elle adopte une identité polonaise non-juive sous le nom de Aniela Dobruska, qui est le nom d'une amie d'enfance. Donc, elle peut se déplacer et elle assiste depuis le côté arien au soulèvement du ghetto de Varsovie. Et voilà ce qu'elle écrit. Nous déambulons, donc nous, parce qu'il y a un certain nombre de juifs cachés, enfin, qui sont réussis à passer du côté arien et qui s'y trouvent, dont certains vont être d'ailleurs dénoncés. Nous déambulons dans la ville, les yeux grands ouverts, rougis par la fumée, sans fermer les paupières malgré les flocons de suie voletant au-dessus de la ville. Cette attitude nous lie à ceux qui sont là-bas, dans leur solitude qui est aussi la nôtre. Voilà, et à l'automne 43, on lui demande déjà d'écrire un texte destiné au public polonais sur la liquidation du ghetto de Varsovie. Donc ces textes font partie de ce livre. Hein. Donc elle arrive à vivre là, du côté arien, et elle ne quitte Varsovie qu'après l'écrasement de l'insurrection de la ville à l'automne 44. Hein. Donc comme on le sait, il y a eu deux soulèvements,
oui, ne pas confondre.
Et donc celui des Polonais qui attendait l'armée rouge, mais l'armée rouge n'est pas arrivée. Donc cette insurrection a été écrasée en automne 44. Et elle a enterré donc ses documents, ses écrits dans un jardin et aussi dans le terrain du zoo, puisque la famille qui tenait le zoo, Jabinski, a caché aussi des Juifs. Après la guerre, elle va être très active, en particulier pour retrouver les archives Ringenblum. Donc Varsovie est complètement détruite, il n'y a que des ruines, donc il est extrêmement difficile de repérer les lieux. Mais elle arrive à retrouver les archives, une partie des archives. Les autres archives n'ont jamais été retrouvées. Ensuite, elle voit que l'antisémitisme polonais se poursuit et elle va quitter la Pologne en 1950. Et nous allons, dans une prochaine émission, nous allons parler de la suite et puis aussi, évidemment, lire des textes dans ce livre tout à fait remarquable. Donc, je rappelle, Rachel Auerbach, un livre de Carolina Simaniak, traduit par Alexandre Daillé, aux presses universitaires de Strasbourg. Voilà, et on peut terminer avec...
Mais c'est là qu'il faut se le procurer aux presses universitaires ou est-ce que tu
le commander? On peut le commander en librairie, j'espère, au moins à Strasbourg, enfin même ailleurs. Oui,
ils ont le commander parce qu'ils ne l'auront pas dans les rayons.
Non, c'est toujours pareil, ils ne l'ont pas dans les rayons, mais j'espère qu'on peut quand même se le procurer parce que je le recommande vraiment très fortement. Il est impossible de donner dans cette émission toute la richesse de ce texte.
Il faudra une deuxième émission.
De toute façon, je ferai une deuxième émission. Oui.
Alors, on va terminer celle-ci par le chant du partisan inconnu. Donc, puisqu'on il est question de résistance et donc de partisan. Ça se présente sous la forme d'une berceuse. Dors, mon enfant, rendors-toi tranquillement jusqu'à ce que la lune se lève dans la nuit. Les étoiles brillent dans le ciel. Ne fais pas attention à mes larmes, mon chéri. Dors, rendors-toi tranquillement. Ton père ne reviendra plus. On nous l'a pris. On l'a traîné dans les rues. Il est mort, étouffé, dans les chambres à gaz. Dors, mon enfant, rendors-toi tranquillement. Maintenant, c'est toi qui devras porter le drapeau. Avec ferveur, tu montreras le chemin. Il faut délivrer les esclaves, les conduire vers un monde libre et nouveau. Alors là aussi, le petit commentaire. Ce chant, repris dans les ghettos de Vilno et de Kaunas, est adapté d'une chanson yiddish consacrée à la guerre civile espagnole. Ça, c'est intéressant, la reconversion de chansons très souvent du moins de la mélodie adaptée avec les paroles adaptées aux nouvelles situations. Donc voici cette chanson. Alors je ne sais pas par qui elle est chantée. Enfin, elle est toujours sur le même disque qui est très intéressant parce que c'est plusieurs des voix différentes. Ah oui, Rosalie Becker qui chante de manière très lyrique, mais très bien.
Et on vous dit shalom aleichem, à la semaine
prochaine. Et merci Thomas.
Schlaf, mein Kind, schlaf wieder ruhig ein, bis die Nacht und die Levone scheint. Auf dem Himmel glänzen Sternen, guck nicht, Kind, auf meine Tränen. Schlaf, mein Kind, schlaf wieder ruhig ein. Der Tate wird schon mehr nicht kommen. Hat ihm von uns zu genommen, übergossen ihn geschleppt, in Gas kommen ihm der Stiegt. Schlaf, mein Kind, schlaf wieder ruhig an. Die Fahnen heucheln. mit Kind auf meine Tränen. Schlaf, mein Kind, schlaf wieder ruhig ein.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.